médicaments.
Et oui, c'est toi, bien la causerie.
Pour moi. Pour nous.
Bonsoir, vous êtes bien dans la causerie sur Radio Canu. Donc pour ceux qui voudraient nous contacter, c'est lacausericanu@gmail.com. Vous pouvez aussi trouver des trucs sur nous sur blogs au pluriel .radiocanu.org/lacauserie. Évidemment, les réseaux sociaux, on connaît bien, donc on a un Facebook. Et puis autour de la table ce soir, nous avons Fabien.
Salut.
Nous avons Georges qui...
Georges qui vient de faire tomber son micro magistralement.
Eh oui, bonsoir et ravi de vous retrouver.
Et nous refait Léon Zitrone avec le micro tenu devant la bouche, c'est horrible.
Et nous avons aussi une jeune visiteuse qui s'appelle...
Je m'appelle Yasmine.
Bonsoir.
Voilà. Bonsoir.
Et puis à la technique, Clara.
Bonsoir.
Et alors, puis on peut faire un petit bisou.
Et puis toi, Jonathan,
ah oui, moi, Jonathan
qui
évidemment.
Fait une entrée en disant bonjour après avoir dit comment nous contacter, ce qui est ta patte un peu.
Ouais, bah de toute manière, les choses à l'endroit, ça m'intéresse pas.
Ah ben, bah, on sera ravis de le savoir.
Ok. Bah, on peut faire des bisous à ceux qui sont pas là aussi.
Tout à fait.
Parce que hein, quand même.
Donc on fait des bisous à Nadège,
à Emma
et à Jean-Yves, qui ne seront pas là ce soir, pardon.
Voilà. Non, on leur fait plein de bisous.
Et on va féliciter Clara pour sa magnifique entrée ce soir avec un oubli de couper les bandes 24-24.
Mais... Personne ne l'a remarqué.
Vous aurez adoré. Et donc ce soir, Georges, si on entend le Yoda's Theme de Star Wars écrit par John Williams, je viens de donner le titre, c'est fait. Je ne sais pas comment le caser celui-là. C'est qu'on fait de nouveau une émission sur les...
Sur les étoiles.
Ah, et donc tu viens nous voir comme tous les 3 mois.
C'est cela, à chaque changement de saison.
Et alors là, c'est un petit peu l'hiver. Enfin bon, il fait 20 degrés dehors, on a du mal à s'en rendre compte, mais normalement c'est l'hiver, non?
Alors ce n'est pas tout à fait encore l'hiver astronomique.
Ah. Et ça commence
c'est
quand
dans
alors?
Dans 2 jours, le 22, mardi 22.
Et ça correspond à quoi?
Ça correspond à une position particulière de la Terre autour du Soleil.
Il faut en dire plus,
oui,
laisse pas les gens dans le suspense.
Ce mardi 22, on se sera pas mal approché du Soleil par rapport à il y a 3 mois. On a gagné encore 2 millions de kilomètres, on s'est rapproché du Soleil et cependant, il fait plus froid. C'est donc, encore une fois, pas la distance Terre-Soleil qui est responsable des saisons. C'est bien l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre sur son orbite. Pour l'hémisphère nord, au mois de décembre, eh bien on est un peu moins penché vers le Soleil que l'hémisphère sud. On reçoit beaucoup moins d'énergie du Soleil, c'est la raison pour laquelle il fait froid dans l'hémisphère nord. et il fait chaud dans l'hémisphère sud, qui correspond au début de l'été pour eux, mm-hmm. les chanceux.
Et il me semble que ça a un nom quand même, cette période.
Ça s'appelle un solstice.
Alors solstice, rappelle ce que ça veut dire. Georges, vas-y, pas peur, c'est non, ton c'est... émission ce soir.
Oui, merci. Non, mais c'est simplement une des deux positions particulières de la Terre autour du Soleil. On a le solstice d'été, au mois de juin, fin juin.
Ok, celui où le jour dure plus longtemps que au plus longtemps et la nuit la plus courte.
Tout à fait.
Et donc le solstice d'hiver, c'est...
C'est le contraire. La nuit est très longue, ce qui est bien pour les astronomes d'ailleurs, un peu moins pour les gens en général.
Est-ce que tu vas me dire que tu vas aller sortir dehors par le temps qu'il fait pour regarder les étoiles ?
Bien sûr, bien sûr, bien au contraire. Le ciel est souvent beaucoup plus pur l'hiver. Et en plus, la nuit dure plus longtemps. Pour les astronomes, c'est parfait.
Ah ouais, tout s'explique. Voilà pourquoi il est un peu givré.
Merci Fabien.
De rien. Mais...
Et ce soir, du coup, tu avais prévu, au-delà du solstice d'hiver, de nous parler d'un quelque chose un peu particulier, à savoir les étoiles, vie et mort d'une étoile.
Tout à fait. La dernière fois, au mois de septembre, on avait parlé de la formation des étoiles, on avait parlé de leur vie. Eh bien, ce soir, il va falloir parler de leur mort. Mais rassurez-vous, ce n'est pas aussi triste que cela, comme nous allons le voir.
C'est surtout que le cercueil, il faudrait un grand cercueil, quoi. Donc, finalement, on va passer à autre chose que ces blagues de merde. Alors, soyons un peu sérieux. Je vais juste rappeler que, donc, effectivement, on en avait parlé, oui, c'est en septembre, tu as raison. On avait parlé, tu expliquais que le Soleil, par exemple, c'était 99% de la masse du système solaire et que les planètes, c'était à peu près les 1% qui restent avec quelques scories qui étaient les astéroïdes. C'est ça, j'ai tout bon ?
À peu près, oui. Et c'est moins que 1%, mais...
Ah, bon, j'ai mal révisé. Et du coup, ce qui, moi, m'intéresse maintenant, c'est que tu dis que le Soleil va mourir, comme toute étoile, et que du coup, il mourra un jour, mais je me rappelle que la dernière émission, tu nous as dit le Soleil, il est là pour quelques milliards d'années.
Ah oui, rassurez-vous.
Donc ça veut dire qu'il va mourir quand, notre Soleil ?
Dans 4 à 5 milliards d'années. Oh. Nous avons encore un petit peu de temps devant nous.
Ça va. Alors.
En tout cas, à l'échelle humaine, ça ne nous posera aucun problème. Vous voilà rassuré ?
Du coup, là, le Soleil est stable. C'est ça l'idée ?
Il est stable depuis des milliards d'années. J'avais raconté ce qu'est la pression de radiation. Quand le Soleil s'est formé, que sa matière était précipitée vers le centre, au moment où le Soleil s'est allumé, c'est-à-dire au moment où la fusion nucléaire a démarré, les radiations de cette fusion ont équilibré les couches extérieures du Soleil qui se sont arrêtées de tomber vers le centre. Et le Soleil est en équilibre. Toutes les étoiles qui sont en équilibre fonctionnent sur ce principe. Le Soleil est en équilibre pendant 4 milliards d'années encore.
Oh bah c'est une bonne nouvelle pour nous. Mais on rappelle juste ce qu'on avait déjà dit dans l'autre émission, c'est que tous les éléments connus dans l'univers se forment au cœur des étoiles.
Au cœur des étoiles. Ouais. Alors le Soleil, lui, au cours de sa vie, n'aura guère formé que de l'hélium, un peu d'oxygène, un peu de carbone.
Parce que c'est une petite étoile.
Petite étoile, absolument.
Mais d'ailleurs, tu nous as dit quelque chose tout à l'heure en arrivant au studio par rapport à un élément qu'on pouvait trouver.
On va en parler plus tard.
On va en parler plus tard.
Parce que c'est dans le truc
tout
d'après.
Non, mais
sinon, si on perd Georges, il ne va pas se retrouver. Là, il va paniquer et tout ça. Moi, j'ai juste une... Donc, tu disais qu'il est stable, mais malgré tout, du Soleil, on peut observer des choses qui se produisent sur Terre, comme les aurores boréales. Et tu nous disais dans la prépa que les aurores boréales, c'est de la matière qui atteint la
absolument.
Alors elle vient d'où cette matière du coup ?
Éjectée par le Soleil. C'est de la matière éjectée par le Soleil. Pas un rayonnement, on parle bien de matière, là, des protons, de la matière.
Et ça se produit même sur une étoile stable ?
Tout à fait.
D'accord, c'est des éruptions.
Des éruptions, oui, le Soleil est sujet à de fréquentes éruptions. Au télescope spécialisé, hein, c'est magnifique. Si les éruptions sont violentes, elles peuvent perturber les moyens de communication terrestres. Nous sommes bien fragiles. Hein.
Ben oui, comme tu le disais déjà depuis 2 émissions.
Alors la Terre, heureusement, est protégée par un champ magnétique intense. mais que ce champ est ouvert aux deux pôles, au pôle nord et au pôle sud. Ce champ forme une couronne autour de la Terre, et comme toute couronne, les deux pôles sont libres, sont ouverts. Et ces particules, du coup, sont précipitées en direction de la Terre par ces deux ouvertures, et rentrent en interaction avec la haute atmosphère terrestre, ce qui provoque ces phénomènes lumineux magnifiques qu'on appelle les aurores.
Rappelons juste pourquoi il y a le magnétisme, c'est ce que tu expliquais la dernière fois, parce que la Terre est composée majoritairement de fer.
Le noyau, composé de fer.
Ce qui fait qu'en fait, on a une sorte de gros aimant sous nos pieds
qui
finalement protège la planète et permet la vie.
Ah, totalement.
Ah, une fois qu'on a dit ça, c'est merveilleux de se dire que la vie ne tient qu'à un aimant.
Okay. Et du coup, tu dirais plutôt aurore polaire que boréale, parce qu'il y en a au pôle nord et au pôle sud.
Exactement. Oui, c'est exactement cela.
C'était pour montrer aussi que j'avais mal révisé.
Alors effectivement, les premières observées étaient au pôle nord.
Et ça, c'est pas des signaux de la mort d'une étoile, c'est la vie normale
d'une étoile bien stable, bien sage, comme le Soleil.
Donc une étoile bien stable, ça balance quand même dans l'univers des morceaux d'elle, quoi.
Une étoile bien stable, ça balance pas mal.
Parce que du coup, il existe des signaux de détection de la mort d'une étoile ou d'une...
Oui, absolument. On va parler pour cela de l'évolution du Soleil au cours des milliards d'années qui viennent.
Alors, ce qu'on peut faire, c'est peut-être commencer à en parler là, faire une petite pause musicale et continuer ensuite.
Mais on aura... Les êtres intelligents qui vivront sur Terre à ce moment-là...
Auront le temps.
Auront des signes précurseurs du début de la fin du Soleil, effectivement.
D'accord. On revient après la musique et on parle de la mort du Soleil. C'est joyeux ce soir.
Et c'était Maroon des Pink Floyd sur Radio Canu 102.2, la plus stellaire de toutes les radios. Et puis on est toujours avec Georges qui nous parle de la mort des étoiles. Et particulièrement du soleil.
Pour commencer.
Tout à fait.
Parce qu'avant la coupure musicale, on disait que le soleil avait été assez stable, mais qu'il allait mourir un jour. Et donc, comment ça va se passer, Georges ?
Eh bien, les premiers signes, ça sera une augmentation du diamètre solaire. Il va petit à petit se mettre à enfler.
Et alors, c'est lié à quoi, ça ?
C'est lié au fait qu'au centre du soleil, les réactions thermonucléaires vont s'arrêter faute de carburant. Tout l'hydrogène aura brûlé au centre. Tout l'hydrogène se sera transformé en hélium. Je rappelle la fusion thermonucléaire, c'est 4 atomes d'hydrogène qui fusionnent pour former un atome d'hélium. Cette réaction produit énormément d'énergie. C'est l'énergie qui fait briller les étoiles, toutes les étoiles. Et cette réaction thermonucléaire qui s'arrête au centre, ça va avoir une conséquence terrible, c'est que le centre du Soleil va se mettre, lui, au contraire, à s'effondrer sur lui-même. Ça va faire suffisamment remonter la température pour que tout l'hydrogène qui était loin du centre du Soleil atteigne la température suffisante pour qu'il se mette à fusionner en hélium lui aussi. Et les réactions thermonucléaires vont démarrer plus loin du centre, de l'extérieur. Et on reparle de la pression de radiation, mais cette fois-ci, cette pression de radiation, au lieu de pousser de l'intérieur, va pousser vers l'extérieur. Et c'est cette raison qui fait que le Soleil va enfler à ce moment-là.
Et alors, ça, c'est quelque chose qui se passe en très peu de temps, ou ça prend quelques années ?
Ça prend plusieurs dizaines ou centaines de millions d'années. C'est quand même pas très très rapide.
Non, mais c'était parce qu'on avait l'image d'un Soleil qui grossissait d'un coup, mais en fait, non, ça prend un peu de temps. Quand tu disais que la vie qui serait sur Terre dans quelques milliards d'années, s'il y en avait toujours, serait capable de voir le Soleil dépérir, c'était de ça dont tu parlais. C'est-à-dire qu'il ne va pas se mettre à enfler en deux secondes. Quoi.
Non, non, absolument pas. Le début du processus sera très calme. Alors, si on peut imaginer que des observateurs éventuels puissent regarder et observer le début du processus. Ça ne me paraît pas évident. En tout cas, ça ne sera pas l'humanité.
C'est une autre forme de vie.
Tout à fait.
Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, on mesure couramment le diamètre du Soleil ?
Oui, ouais. Absolument. Oui, c'est fait très régulièrement. Absolument. Alors bon, vous allez me dire, mais comment fait-on ? Parce que le Soleil, c'est bouillonnant.
C'était ma question.
C'est bouillonnant. Est-ce qu'il y a une surface réellement définie ? Parce qu'il y a des éjections de matière du haut vers le bas, du bas vers le haut. Comment définit-on la surface du Soleil ? Où est-ce qu'elle est ? Ben, c'est une norme, c'est une convention. Et la surface du Soleil, pour nous, c'est la surface par laquelle est émise la lumière visible. Et c'est vrai que quand on observe dans d'autres longueurs d'onde, on ne voit pas du tout la même chose.
Il est plus ou moins gros selon la longueur d'onde.
Tout à fait.
Moi, bon, c'était pour schématiser.
Mais donc là, on parle du diamètre du Soleil, enfin de sa surface, mais pendant la prépa, tu avais parlé de sa masse et de la question de la masse pour une étoile et par rapport à sa masse.
Est primordial, oui. Le Soleil, c'est une énorme masse, hein, c'est 300 000 fois la masse de la Terre, 300 000 fois la masse de notre planète.
Un petit surpoids, le Soleil.
C'est un million de fois son volume, donc on voit déjà que la densité est un peu moins forte que celle de la Terre. Mm-hmm. 300 000 fois sa masse et un million de fois son volume. Oui, je suis désolé, on est obligé de donner quelques chiffres comme ça. J'essaye de limiter les chiffres que je balance.
Pour que les gens comprennent, quand tu dis que la densité est plus faible, c'est que le Soleil a un volume beaucoup plus grand, alors qu'il devrait que 300 000 fois. C'est-à-dire qu'en théorie, si on avait une.
C'est densité, un million de fois voilà. Le volume de la Terre.
Donc si on avait une densité égale, on devrait avoir 300 000 fois le volume de la Terre et pas un million de fois.
C'est le contraire.
Ah non, c'est le contraire. J'ai dit une connerie. Je vais aller me coucher, moi, ça va aller mieux.
C'est pas grave. Oui, mais c'est ça. C'est ça.
D'accord.
Et donc, en quoi la masse d'une étoile joue sur son dépérissement ? Ça se dit, ça ?
Eh bien, la fin de sa vie ne va pas donner exactement la même chose suivant sa masse. Ça va être déterminant pour la fin de vie de l'étoile.
Alors, commençons par la nôtre. Donc tu disais, elle commence par enfler. Mais c'est tout ce qu'elle fait ?
Eh non. Eh non, parce qu'il y a, un moment où, même dans les couches extérieures, ben, l'hydrogène sera épuisé, le carburant sera épuisé. Mais à ce moment-là, les couches extérieures auront pris tellement d'élan qu'elles vont continuer à s'éloigner du centre. Le centre qui, lui, par contre, va s'effondrer assez violemment. Donc ces couches extérieures vont former comme un globe de gaz autour de l'étoile. Il peut y avoir des pulsations, donc la formation de plusieurs globes de gaz. On en observe pas mal quand on regarde avec un télescope. Ça fait de splendides nébuleuses, très colorées, etc. C'est simplement les enveloppes extérieures de ces étoiles qui se sont lentement diluées dans l'espace, qui se sont échappées.
Donc du coup, il ne reste plus rien de l'étoile d'originelle.
Il reste quelque chose.
Ah.
Il reste quelque chose de très dense, qui va progressivement se refroidir. Il n'y a plus de réaction thermonucléaire, mais elle garde encore toute cette énergie emmagasinée pendant des milliards d'années. Mmh. Il continue à s'échapper. L'énergie met très longtemps à s'échapper d'une étoile. Bon, sa densité va augmenter, ça va quand même limiter le refroidissement. Parce que si la densité augmente, la température a tendance à augmenter.
Ouais.
Et on va passer par des densités qui sont, à notre échelle, incroyables. Ça va finir en ce qu'on appelle une naine blanche. C'est-à-dire un astre de plus en plus froid, dont la densité est telle qu'une cuillère à café de cette matière pèserait des centaines de tonnes.
Tu peux nous la refaire, là ? Une cuillère à café de la matière pèse des centaines de tonnes.
C'est ça. La matière telle qu'on la connaît, on voit les atomes très loin les uns des autres.
Ouais.
Dans une telle étoile, les atomes se rapprochent et finissent par tous se toucher. Donc on peut mettre énormément de matière dans très peu de place si on fait se toucher tous les atomes. La densité est élevée, très élevée. Oui, des centaines de tonnes pour une cuillère à café.
Et donc c'est ce que tu appelles une naine blanche. Et l'étape d'avant, elle a un nom ? Quand il grossit et qui rougeoie.
Oui, c'est ce qu'on appelle une géante rouge.
Ah bah tiens, j'avais juste sur un bout de...
Et donc, autour de cette naine blanche, subsiste une ou plusieurs enveloppes de gaz, plus ou moins lumineuses, qui forment de splendides spectacles au télescope. Les premières qui ont été découvertes avec des télescopes peu précis. On voyait des petites boules blanches au télescope. On a appelé ça des nébuleuses planétaires. Mais effectivement, ça n'a rien à voir avec le phénomène des planètes. C'était juste leur forme qui rappelait l'image qu'on pouvait avoir d'une planète dans un petit télescope.
Ah ok. Toute la masse du Soleil va finir par se consumer, c'est ça ? Enfin, par fusionner, parce qu'elle ne se consume pas en fait. Elle fusionne. Arrête de dire des conneries, Fabien. Et donc tous ces gaz avec des morceaux de différents éléments du coup à l'intérieur, alors pour le Soleil ce sera principalement de l'hélium du coup, ils vont continuer à se balader dans l'espace comme ça, tranquille pendant...
Une éternité.
D'accord.
Presque. Ça va se diluer lentement. Et on a comme ça dans l'espace, quand on regarde au télescope, des fragments de ces nébuleuses planétaires, comme des draperies, comme des voiles, comme des petits filets, qui sont le résidu de nébuleuses planétaires très, très anciennes.
Et comment on sait, enfin, est-ce qu'on a des schémas qui nous permettent d'autres exemples ailleurs dans l'univers qui nous permettent de voir les différentes étapes?
Oui, alors ça, la question est intéressante. Effectivement, quand on regarde de l'univers avec des télescopes, on voit des astres à des temps différents de leur évolution. Donc c'est facile ensuite pour l'astronome d'en faire un film si on voit des étoiles à des moments différents de leur évolution.
C'est comme si on avait un échantillon de chaque étape de la vie d'une étoile.
Exactement.
Donc ce que tu veux nous dire, Georges, aussi, c'est que notre système solaire, il n'est pas unique, quoi. On le retrouve un peu partout, ce qu'on disait l'autre fois, et que la mort d'une étoile, finalement, se produit à plusieurs endroits dans l'univers. C'est pas quelque chose qui arrivera qu'au Soleil, quoi.
Exactement.
Et on est capable comme ça d'estimer, quand on voit une étoile, de dire, tiens, celle-là, elle va aller à tel milliard d'années de vie, parce que ça se compte en milliards d'années. Elle a tant de milliards d'années ou pas ?
Oui, on est capable de dire pour telle étoile, après l'avoir étudiée, pour combien de temps elle en a encore, on est capable. Alors, avec une certaine imprécision.
Ouais, ben quand on est l'ordre du milliard d'années, même si on me dit à plus ou moins 10%, on est toujours dans le milliard d'années, ça va quoi.
Parce qu'on a fait une classification des étapes d'évolution des étoiles, ouais. Et on sait, sur ce diagramme, il s'agit d'un diagramme, on sait où telle étoile se situe sur ce diagramme.
Et donc là, c'est comme ça qu'on arrive à savoir que le Soleil est à la moitié de sa vie, à peu près.
Exactement.
D'accord. Et on peut mesurer, je crois que tu en avais parlé, le degré d'hélium par rapport au degré d'hydrogène qui reste dans le Soleil, à peu près ?
Oui, oui, c'est 50-50, c'est 50%.
D'accord, et c'est comme ça qu'on sait que c'est la moitié, à peu près, quoi.
Tout à fait. D'accord.
Donc, moi je reviens là-dessus parce que ça m'a beaucoup intéressé, mais tu parlais de nébuleuses planétaires. Et du coup, qu'est-ce qu'on trouve comme matériaux au cœur de ces nébuleuses ?
Ben, encore beaucoup d'hydrogène, tout l'hydrogène qui n'a pas fusionné, parce qu'il était trop loin et donc pas assez chaud. Et puis, beaucoup d'hélium. Et puis, on y trouve des traces de carbone et d'oxygène, et puis pas grand-chose d'autre.
Et ça, c'est lié au fait que c'est une petite étoile qui
meurt. Tout à fait.
Parce que là, on va commencer à introduire le teaser de ce qu'il y aura après l'autre coupure musicale. C'est que du coup, il y a aussi des grandes étoiles. Tu nous en avais parlé l'autre fois.
Mm-hmm, absolument. Et des étoiles de plusieurs fois la masse du Soleil.
Et celle-là, quand elle meurt ?
Eh bien, ça ne se passe pas du tout aussi calmement.
Restez avec nous. Vous en saurez plus après la musique. Parfois, c'est stellaire, comme en ce moment. Et oui, vous êtes bien sur le 102.2 sur Radio Canus, c'est dimanche 22-23h. On est en compagnie de Georges pour une causerie autour des étoiles, comme tous les solstices et les
l'équinoxe.
Ah bah quand même. Et on vient d'entendre Hymne de Vangelis.
Et du coup, Georges, tu nous parlais tout à l'heure du fait que toutes les étoiles ne mouraient pas de la même manière, et aussi qu'il y avait des grosses étoiles.
Oui. Parlons par exemple d'une étoile qui aurait deux ou trois fois la masse solaire, deux ou trois fois plus de matière que dans le Soleil. La première partie de sa vie va se dérouler quasiment de la même façon, les guerres de différence. C'est ensuite que les choses vont se gâter. Elles vont se gâter parce que, ben, au moment où la fusion nucléaire va s'arrêter au centre, eh bien, le noyau va continuer à se concentrer, à s'effondrer sur lui-même, à imploser, en quelque sorte, à imploser carrément, jusqu'à ce que des densités soient absolument phénoménales. On parlerait là, pour une cuillère à soupe de cette matière, de plusieurs milliards de tonnes, une seule montagne dans une cuillère à soupe. Faites attention avec la soupe d'ailleurs, parce qu'elle est chaude et indigeste. Elle est bien lourde.
Et donc, ça c'est ce qui se passe au centre, mm-hmm. Et donc elles grossissent aussi comme pour le Soleil ?
Non, pas du tout.
D'accord, voilà.
Ça ne se passe pas du tout de la même façon.
Alors, comment ça se passe ?
La force de gravité est bien trop forte pour que l'atmosphère extérieure ne s'échappe. Bien au contraire, il va même être, par la force de gravité énorme, il va être précipité vers le centre. De toutes les directions, ces masses énormes de matière vont être propulsées vers le centre, et le centre est devenu, je vous le rappelle, extrêmement dense. Donc ça, par effet mécanique, ça va même rebondir sur le noyau extrêmement dense.
Ah oui, carrément un rebond, quoi. Enfin, comme on peut l'imaginer, d'une balle contre un mur, quoi.
Voilà. Et tous ces phénomènes extrêmement violents vont considérablement échauffer l'étoile. Au centre, nous allons avoir un noyau qui progressivement va tendre vers le fer, assez rapidement. N'avoir que du fer. Et à l'extérieur, eh bien, dans ces températures-là, les autres éléments les plus lourds vont se former. Tous les éléments lourds qu'on connaît, hein, les éléments dont nous sommes formés.
Et on est tous des poussières d'étoiles, fallait la place.
Mais dans la prépa, tu disais que donc, plus la masse d'une étoile est importante, moins l'étoile est stable. Et là, tu disais aussi dans la prépa que le fer est l'élément le plus stable. Alors, comment ça se fait dans une grosse étoile comme ça qui a trois fois la taille du Soleil? Au final, dans son cœur, on retrouve du fer et pourtant, a priori, elle serait instable.
Elle sera instable à cause de son extérieur. Le noyau, ça va représenter 10% de l'étoile, pas tellement plus. 90% de la matière sera à l'extérieur et c'est telle qui va repartir très violemment dans l'espace, à des températures telles que ça s'apparente à une explosion. C'est une réelle explosion. Là, on parle d'une réelle explosion.
Parce que dans les matières qui repartent, la fusion continue.
La fusion continue.
Pendant le voyage, on va dire.
Ce d'autant plus que la température augmente de façon exponentielle. Ça veut dire que la montée de température s'accélère.
D'accord.
Et c'est à ces températures-là que sont fusionnés, sont créés tous les autres éléments de la table de classification chimique, hein. Okay. Jusqu'au plus lourd, l'uranium, etc.
Et tu parlais de, pendant la prépa, de 100 à 200 millions de degrés pour cette fusion.
Ça peut atteindre même plusieurs milliards de degrés lors de ces fusions-là.
Oh, petit détail. Pour cuire un steak, c'est pratique, mais ça va vite, quoi.
Et dans les dernières minutes de cette explosion, c'est 30 ou 40% des éléments qui sont formés en quelques secondes. C'est quelque chose d'extrêmement violent.
Parce que tu veux dire qu'en fait, ce dont tu viens nous parler là, c'est beaucoup plus rapide que pour le Soleil.
Ah oui.
Parce que tu parles de secondes, alors pour le Soleil, tu nous parlais de millions d'années. Il y a quand même un grand écart entre les deux.
C'est pour cela qu'on parle d'explosion.
D'accord. Donc ça se produit, cet effondrement se produit en quoi ? Quelques minutes
L'effondrement du cœur lui-même ?
Ouais.
Non, ça prend quelques milliers d'années.
Ouais. Et l'explosion ?
Millions.
Et l'explosion, ouais.
L'explosion, quelques minutes.
Ah oui. Donc c'est très très rapide.
Et d'ailleurs, anecdote, on avait peut-être pu observer en Chine il y a quelques temps de ça déjà.
Absolument. C'est un phénomène similaire qui a été observé par les Chinois en l'an 1054. Donc les Chinois voyaient pendant plusieurs semaines cette étoile qui était tellement brillante qu'elle était même visible en plein jour. Ils ont noté cela, ils ont noté sa position. Ils ont noté sa position et quelques siècles plus tard, on a retrouvé les écrits chinois et on a pointé un télescope vers la position indiquée par les Chinois. Et on a trouvé ce qu'on appelle la nébuleuse du crabe. C'est une splendide image d'explosion d'étoiles. Une nébuleuse avec des filaments qui partent dans tous les sens depuis le centre.
On essaiera d'en mettre une photo sur le blog pour que les gens puissent voir
à quoi elle ressemble. La nébuleuse
du crabe. Et donc du coup... on a la preuve là qu'on a. Alors, c'est quoi ce phénomène ? Parce que tu disais là tout à l'heure, c'est une naine blanche, une géante rouge. Et là, quand ça se produit, c'est quoi ?
Alors, ce qui reste au centre, c'est un corps infâme qu'on appelle étoile à neutrons. Mmh. Pourquoi la densité a tant monté ? Parce qu'au moment où les atomes se touchent tous, l'implosion continue. Ça ne suffit pas à arrêter l'implosion. Et ce sont les électrons qui constituent l'extérieur des atomes, ces électrons sont précipités vers le noyau. Et du coup, s'annihile avec les protons pour ne former que des neutrons.
D'accord. Et ça, c'est ce qui reste. Et quand ça fait cette grande explosion, on appelle ça comment, en fait ?
Voilà, c'est la supernova.
Ah, c'est ce que je voulais te faire dire.
Oui, parce que tu disais, enfin, au départ on parlait d'une étoile qui serait 3 fois plus grande que le Soleil, mais 10 fois plus grande, ça s'appelle déjà une méga étoile et ça a déjà un autre effet quand elle meurt.
Oui,
et là, une supernova, c'est une étoile de quelle taille à la base à peu près ?
3, 4, 5 masses solaires, 5 fois la masse du Soleil.
Et si on est au-dessus, ça fait quoi ?
Eh bien, si on est au-dessus, l'implosion va continuer, même une fois que tous les noyaux atomiques se touchent.
D'accord. C'est une sorte de quelque chose de permanent. Mais on ne va pas dire tout de suite le nom. On va laisser le suspense.
Moi, tu avais dit aussi pendant la prépa que cette fameuse nébuleuse du crabe, comme quelques nébuleuses, garde leur apparence pendant quelques milliers d'années.
Absolument.
Et
tant mieux pour nous, c'est splendide sur les images.
Et que c'est dans ces nébuleuses qu'on trouvait des éléments qui composaient la planète Terre aussi. Et moi, je voulais savoir, une fois qu'elle change d'apparence, ça devient quoi, une nébuleuse ?
Ça devient quoi, une nébuleuse ? Oh, elle va très lentement se diluer dans l'espace. Et la matière va être probablement récupérée, va se concentrer à nouveau elle-même et va former probablement des étoiles de seconde génération. Donc l'explosion, la mort de cette étoile, va permettre à d'autres étoiles d'apparaître en mieux, parce qu'elles auront des éléments lourds.
C'est un peu le cas du Soleil ou pas ?
Oui, tout à fait. Le Soleil est une étoile de seconde génération.
On nous a essayé de recycler.
C'est grâce à cela qu'on est composé d'éléments lourds et qu'on existe.
Ah oui, donc en fait, c'est ce que tu disais dans l'émission précédente. Dans l'espace, en fait, tous les éléments qui constituent les planètes, qui constituent les êtres vivants, qui constituent tout ce qui est dans l'espace, en fait, est issu au départ de la mort d'une étoile précédente.
Tout à fait.
Donc, plutôt d'une supernova.
D'une supernova, oui. Carrément, même d'une supernova. D'accord. Uniquement d'une supernova.
Mais ça, tu le dis, mais t'as aucune preuve.
Eh, si. Alors, il s'agit d'une météorite trouvée à la fin des années 60, au Mexique, et qu'on a analysé quelques années après. J'aime bien cette histoire de météorite parce que c'est assez fascinant. Et on a trouvé à l'intérieur de cette météorite un isotope du magnésium, le magnésium 26. Bon, vous allez me dire, jusque-là, rien de transcendant. Sauf que le magnésium 26, il ne peut être issu que de la désintégration de l'aluminium. Et l'aluminium 26 ne peut se désintégrer qu'au corps d'une supernova. On ne connaît pas d'autre moyen aujourd'hui de fabriquer du magnésium 26.
D'accord, donc là c'est la preuve flagrante que cette météorite est issue d'une,
supernova.
Oui, d'une supernova. Donc nous aussi.
Alors, cette météorite, et puis nous, nous sommes les enfants de cette supernova.
Merci maman.
Je sais pas pourquoi ça m'est venu. Non mais alors, ce qui est intéressant, c'est que depuis 3 émissions, maintenant tu nous parles de l'espace, de la taille, de, voilà. Mais on voit que tout est basé quand même sur de l'observation, certes, mais aussi des preuves scientifiques derrière.
Ah, mais absolument.
C'est-à-dire qu'il y a d'abord une théorie et on cherche toujours à vérifier la théorie avec des preuves matérielles.
Absolument.
D'où l'utilité de l'exploration spatiale, en fait. Ce dont on parlait avec Rosetta. Non, pas Rosetta, il n'y avait pas Rosetta ici, c'était le nom de la
sonde.
Il n'y avait pas une Rosetta dans le studio. Ça aurait été joli, mais bon. Donc, voilà. Donc ça sert à ça, en fait. Par exemple, quand on envoie Rosetta sur une comète, ça peut servir à retrouver des éléments pour prouver d'où est issue cette... voilà.
Eh oui, bien sûr.
C'est tout ce que tu vas dire. Il va s'arrêter
mais
à
tout
mais
à
oui,
fait.
Il va s'arrêter à mais oui, bien sûr. Mais c'est rude, là. Genre. Non, mais dis-nous en plus. C'est ce que cherche vraiment.
Ben, ces missions ont vraiment pour objectif de comprendre la formation du système solaire et la formation de nos planètes. Et pour ça, les comètes, c'est quelque chose de remarquable parce que ce sont des astres qui sont demeurés loin du Soleil et qui n'ont absolument pas évolué depuis des milliards d'années.
Ah oui, c'est... D'où le fait qu'on soit extrêmement surpris de ce qu'on y trouve. Mm-hmm. Parce qu'on ne pensait rien y trouver, et finalement, on trouve plein de trucs. Donc, c'est intéressant, ça. Mais pas... Parce que souvent, les gens disent, oui, ça sert à quoi d'aller dans l'espace, d'aller voir une comète, comprendre, en fait.
Comprendre. Voilà.
C'est déjà pas mal.
C'est une des plus belles choses chez l'être humain.
J'ai envie de dire qu'il y a...
besoin de comprendre.
Excuse-moi. Mais il y a plusieurs manières d'aller chercher l'origine de la vie, hein. Finalement, donc il y en a qui vont chercher dans des causes spirituelles et il y en a qui vont les chercher dans l'espace.
Bah oui. Enfin, l'une est plus vérifiable que l'autre quand même. Et avant qu'on fasse une petite pause musicale, moi j'avais une question, Georges, c'est il y a des étoiles encore plus grosses, tu vois, on disait, voilà, des très très grosses étoiles qui finissent par exploser et qui donnent quelque chose de dont tout le monde te parle tout le temps et qui t'énerve énormément parce qu'on ne parle que de ça. Et ça donne, à la fin, ça donne quoi ?
Ça donne un trou noir.
Ah, et là, tu vas nous expliquer un peu après la musique ce que c'est qu'un
c'est
trou noir.
C'est promis.
Ah, c'est gentil, ouais. Georges. tu n'es pas au camping des épis bleus dans les années 80 avec Jean-Michel Jarre et Equinox Partie 5. Non, tu es dans la causerie stellaire. Et donc, un choix. La musique est choisie par Georges, mais j'aime beaucoup, moi, Jean-Michel Jarre, je le dis. Mais voilà. Donc, c'était Equinox Partie 5. On est d'accord, Georges ?
Merci.
Parce que tu veux donner aucun titre. Espèce de timide. Et avant ça, on commençait à parler des trous noirs qui naissait de l'explosion d'une super méga étoile.
Ah, les trous noirs.
Allez, vas-y, juste un petit peu sur les trous noirs quand même.
Qui n'a pas entendu parler des trous noirs ? Donc, on en était resté à l'étoile à neutrons, un corps extrêmement dense, et tous les noyaux atomiques se touchent, les électrons ayant été précipités sur les protons, la densité est extrême. Et si on a encore plus de matière ? Une étoile de 10 masses solaires, pourquoi pas. Si on a plus de matière, eh bien, qu'est-ce qui peut arrêter l'effondrement ?
Pas grand-chose.
Non. Non, pas les éléments, en tout cas, qui constituent le noyau atomique. La réponse, c'est on n'en sait rien. Ce qui peut arrêter l'effondrement, ce qui peut arrêter l'implosion d'un tel corps. À l'heure actuelle, on n'en sait rien.
Et donc, c'est ça le trou noir, c'est le fait que là, on passe carrément aux atomes qui s'imbriquent les uns dans les autres.
Au noyau atomique.
Au noyau atomique qui s'imbrique.
Tout à fait. Dans les noyaux atomiques, les neutrons sont constitués d'éléments qui ne se touchent pas normalement. Ils ont encore beaucoup d'espace entre eux. Mais ils sont constitués par des éléments, les quarks, qui vont pas arrêter l'effondrement. Ils en sont totalement incapables.
C'est très très petit en plus.
Et donc ce type d'implosion n'arrive qu'avec des très 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 grosses étoiles,
tout
des méga méga étoiles.
Il faut que la pression soit suffisante, donc il faut énormément de matière.
Et du coup le trou noir, il a la spécificité de tout absorber, la lumière, la matière, tout se comprime à l'intérieur.
C'est ça, oui. La vitesse de libération d'un tel corps atteint la vitesse de la lumière. Je m'explique.
Oui, pour, ce serait mieux.
pour s'échapper de la Terre, pour échapper à la gravité terrestre, il faut être capable d'atteindre une vitesse de 11 km par seconde. C'est déjà énorme. D'où les énormes fusées qui décollent et les astronautes qui se prennent des jets et des jets et des jets dans la... Mais pour des corps plus gros, évidemment, cette vitesse de libération, comme on l'appelle, augmente. Dans le cas du Soleil, c'est déjà 300 km par seconde, et plus le corps est gros, et plus ça augmente. Sur un trou noir, cette vitesse de libération atteint la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde, ce qui veut dire que même la lumière ne peut lui échapper.
D'accord. C'est ce qui explique qu'il absorbe les photons.
Tout à fait.
Ah, c'est un peu...
La vitesse de libération d'un tel corps atteint la vitesse de la lumière.
Et le trou noir le plus proche de chez nous, il se trouve où ?
Je peux parler du premier découvert.
Ouais, vas-y.
C'était dans les années 70, dans la constellation du Cygne, où on a détecté, avec des radiotélescopes, une énorme émission de rayons X. Donc on s'est penché sur la question. Au télescope, on voyait bien une étoile, mais qui était incapable de produire de tels rayons X. Et on s'est rendu compte qu'en fait, c'est la matière de cette étoile qui était précipitée vers quelque chose. Et c'est cette précipitation qui provoquait les rayons X, la précipitation de cette matière vers ce quelque chose qui produisait l'énorme émission de rayons X.
Donc on a déjà observé une étoile absorbée par un trou noir.
Exactement.
C'est ce que tu es en train de nous dire là calmement, comme si c'était normal et que tout va bien.
Et on s'est rendu compte que ce quelque chose qu'on ne voit pas faisait plusieurs fois la masse de l'étoile qu'on voyait.
Et donc, il n'y a aucune possibilité de voir un trou noir, par définition. Donc, on ne peut que supposer qu'il se trouve à un endroit. Par les calculs, hein, j'entends. Hein,
donc, on ne le voit que par l'effet de sa gravité.
D'accord. Il dévie la lumière, du coup.
Et puis, l'émission de lumière par la matière qui est précipitée vers lui.
D'accord. Et on n'en sait pas beaucoup plus sur ce qu'il y a dans un trou noir.
Tout à fait.
Par contre, on peut faire une petite parenthèse et dire qu'il y a un film sorti il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Interstellar, et tu nous disais pendant la prépa que c'est tout l'aspect scientifique qui est dans Interstellar, a priori, est plutôt bien foutu.
Exactement.
Et que ça permet de comprendre ces phénomènes-là.
Aussi étonnant que ça puisse paraître, oui, il n'y a rien qui, dans ce film, peut être contredit par la science actuelle.
C'est la classe absolue, de voir un gros blockbuster et d'apprendre des trucs. Non, c'est rare, quand même. Il faut le souligner quand ça arrive. Ok. Donc là... on a un peu bouclé avec l'émission précédente, parce que finalement, bon, là, on a vu le trou noir qui est une des aspects des morts des étoiles selon la masse qu'elle fait. Et tu disais donc que bah, la mort d'une étoile, c'est la naissance d'un nouveau, de nouveaux systèmes, finalement.
Comme on l'a vu juste avant la musique.
C'est ça. Donc, du coup, il n'y a pas à s'inquiéter. C'est cool.
Non, non, ça n'est pas triste du tout, vous voyez.
C'est même normal.
Absolument. C'est la vie normale d'une galaxie. La vie normale de notre Voie lactée.
Donc tout va bien.
Exactement.
On n'est pas tous rassurés autour de la table.
Bah, si, si, très bien, mais ça ne fait que confirmer que finalement, rien ne se crée, rien ne se perd et tout se transforme, toujours.
Tout à fait,
mais oui.
Comme disait Lavoisier, et bien avant lui...
un certain Jean Mélier.
Un certain Jean Mélier.
C'est un petit clin d'œil. Un autre curé de campagne qui nous plaît beaucoup à la causerie.
Et peut-être...
Et qui nous a dit que... Ben... La matière se débrouillait très bien toute seule.
C'est la base du matérialisme.
Et puis, peut-être que pour terminer cette émission, tu pourrais nous parler de ce qu'on peut voir dans le ciel ces prochains matins.
Mais bien sûr. Alors, le matin, oui, ça suppose qu'il faut se lever tôt.
Ça c'est perdu, ça.
Ça peut être un petit coup d'œil au moment de partir au boulot, pourquoi pas. Boulot, ouais. Peut-être. Bon, il y a dans le ciel du matin... vers l'horizon sud et sud-est, un beau rassemblement de planètes. Je m'explique, vous avez au ras de l'horizon un astre très très brillant, il s'agit de la planète Vénus, très brillante, hein, bien plus brillante que les étoiles présentes, plusieurs degrés vers le sud et plusieurs degrés en hauteur, un autre astre très brillant, lui-même plus brillant que les étoiles présentes, c'est la planète Jupiter. Et entre ces deux astres, vous avez deux petits astres moins brillants, situés à mi-distance à peu près l'un sur l'autre. Tout en bas, c'est l'étoile Spica, constellation de la Vierge, l'étoile principale de la constellation de la Vierge. Et juste au-dessus de Spica, un astre un peu orangé qui n'est pas une étoile.
Un astre orangé qui n'est pas une étoile. C'est un quiz qui lance là.
Ça pourrait être une planète.
C'est une planète, c'est laquelle?
Mars.
C'est Mars.
Bien bon joué.
C'est Mars. Donc vous avez une partie du système solaire rassemblée là sous les yeux, en partant au boulot, c'est sympathique.
Et tu nous disais pendant la prépa qu'en fait, quand on regarde ça, on a combien de pourcentage de la masse du système solaire?
Ben là, si on n'attend pas que le soleil se lève... On a 1% de la masse du soleil.
Et quand il se lève?
Eh ben, on a 91% de la masse du soleil.
Eh ben, alors, juste pour faire la blague, mais... Donc, trois planètes alignées, c'est pas dangereux, ça, pour les taureaux, les scorpions?
Elle a osé la blague.
Joker.
Et est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut observer en ce moment ailleurs sur une autre horizon ou enfin en tournant sur soi-même?
Le soir cette fois-ci,
ouais.
C'est plus facile. Hein. Vous avez une très belle constellation d'hiver sur l'horizon sud-est puis sud assez rapidement. À 23h, c'est plutôt l'horizon sud. C'est un grand rectangle vertical formé d'étoiles brillantes. Et au centre de ce rectangle, trois petites étoiles parfaitement alignées, qu'on appelle les Trois Rois. Il s'agit de la constellation d'Orion, qui est probablement la plus belle constellation du ciel. Et on y trouve un objet remarquable, qui est la nébuleuse d'Orion. Alors, ce n'est pas une nébuleuse planétaire, hein, c'est une nébuleuse gigantesque qui va donner naissance au fil du temps à des centaines d'étoiles.
Dit-il tranquille.
Si vous êtes en montagne, si vous allez au ski, on l'aperçoit, c'est pas très facile, il faut savoir où elle est, mais on l'aperçoit à l'œil nu, la nébuleuse d'Orion. Et au télescope, c'est formidable.
Et alors du coup, tu parlais d'observation, on va peut-être rappeler qu'il y a un club qui existe où tu es régulièrement, Georges.
Oui.
Faire un petit peu de promotion pour ce club.
Le club de Chaponnet, on se réunit tous les mercredis soirs à partir de 20h30. Quand il fait beau, ben on sort des télescopes et nous sommes ravis quand des gens viennent nous voir et regardent au télescope. Certains pour la première fois, c'est toujours intéressant.
Donc ça se situe où à Chaponnet?
Ça se situe à la maison des associations.
Ouais. Et à mercredi, à partir de la tombée de la nuit, quoi.
À partir de 20h30. En ce moment, la tombée de la nuit, c'est plus tôt. Hein. Mmh. Mais on... on y est à partir de 20h30.
Ok. Ben, c'est bien, non ? T'as l'air de dire ça, t'as l'air triste. Donne envie aux gens
oui,
de venir.
Donne envie aux gens de
venir. Oui, parce que ça se termine bientôt et que du coup, on arrive à la fin de la causerie et qu'on va remercier Georges de nous avoir encore une fois fait voyager aussi bien.
Tout le plaisir était pour moi.
Et donc, on te dit rendez-vous le 20 mars
pour l'équinoxe de printemps.
Et
le
20 mars. Eh oui, maintenant, ça devient une habitude. La causerie, tous les trimestres, une fois par trimestre, devient stellaire. C'est merveilleux, non ?
Une fois tous les trois. Ah ouais.
Mais c'est un trimestre,
oui,
trois
oui,
mois.
Oui,
ah bon ? Okay. Il nous fallait un truc comme ça, là.
Il y a quatre trimestres dans une année, ça me perturbe.
Donc il y a quatre émissions.
Mais tu étais encore dans les étoiles.
C'est ça. C'est tout à fait ça, dans les planètes.
Avant de se quitter, on va quand même rappeler que Radio Canu est une radio indépendante et surtout autogérée et que du coup, elle fait ce qu'elle peut pour survivre. Mais vivre en fait, parce qu'on a une bonne nouvelle. On vient de pouvoir acheter notre local et ça va nous permettre d'être là encore quelques années. Et ça, c'est bien. Enfin, sauf si vous n'aimez pas l'émission, mais à la rigueur, vous ne l'écoutez pas, ça ira mieux. Et donc, du coup, on a encore besoin d'un petit peu, un petit coup de main et un petit peu de sous-sous pour nous aider. Donc, si vous voulez envoyer vos dons, c'est à Radio Canu, boîte postale 1101 Lyon, CEDEX 01. Donc, ça, c'est pour vos dons par chèque, parce qu'on a un compte en banque. Oui, oui, oui. Et si vous voulez faire un virement, il faut aller voir sur radiocanu.org. À soutenir Radio Canu, vous avez le numéro IBAN qui permet de faire des virements tout bien de votre banque. Alors, vous pouvez en faire un, puis vous pouvez en faire un tous les mois, hein, si vous voulez. Enfin, là, après, ça vous regarde. Nous, on est preneurs. Ça nous aidera toujours. Voilà. Et puis, juste dire et remercier quand même les auditrices et auditeurs qui nous ont beaucoup aidés. On a atteint, normalement, environ 55 000 euros de dons. C'est énorme. On ne s'attendait pas autant. On vous remercie vraiment du fond du cœur et vraiment, ça va. On vous le jure tous autour de la table. Ça va nous permettre de continuer à faire des émissions comme ça, celle d'aujourd'hui. Et là, on va recevoir des coups de fil. Non, finalement.
Je voudrais récupérer mes dons.
Non. Je plaisante, c'était génial, Georges. Merci beaucoup pour ce que tu nous. Ben, pour les voyages que tu nous offres à chaque fois, quoi. Et qui... Bon, on ne dira pas la même chose de la musique, mais les voyages sont bien.
Merci, Fabien.
Merci de nous mettre la tête dans les étoiles.
Non, vraiment, c'est cool, c'est top. Même la musique me plaît, tu sais. Et on va se quitter avec un titre, Georges, mais là, c'est toi qui vas l'annoncer. Et oui, pour pouvoir montrer un petit peu ton niveau d'anglais sublime.
Alors, j'ai choisi pour la fin un titre de Dire Straits, parce qu'il y a un morceau de guitare exceptionnel dans ce titre. Ça s'appelle On Every Street.
Eh ben, c'était merveilleux.
Oui,
merci.
Très bel accent.
Bon courage à toutes et à tous pour la semaine qui vient. Merci Clara pour la technique. Bon, peut-être pas pour le début, mais en tout cas pour le reste, c'était vachement bien. Et ben, est-ce que ça t'a, tu vas parler un petit peu, ça t'a plu de participer à cette émission ?
Oui, j'ai appris plein de trucs. Ouais.
Eh ben, c'est cool. Tu vois, Georges est content, il est là, il sourit.
Voilà, mieux qu'un cours de physique.
Eh ben voilà.
Voilà.
Wouh !
Ça, c'est un beau compliment, ça.
La barre ou pour la prochaine, Georges. Allez, à bientôt.
On vous fait des bisous.
Salut.
Au revoir. There's gotta be a record of you someplace. You gotta be on somebody's books. A lowdown picture of your face. Your injured looks. The sacred and profane. Pleasure and the pain. Yeah. Somewhere your fingerprints remain concrete. And it's your face I'm looking for. On every street. Regulation tattoo, silver spurs on his heels. What can I tell you as I'm standing next to you? She threw herself under my wheels. And it's a dangerous road and a hazardous load. And the fireworks over liberty explode in the heat. And it's your face I'm looking for. Oh.
on every street.